Chapitre 34. Celle qui fut ma mère à une époque attendait là où elle l'avait dit. Assise à une petite table en fer forgé à la terrasse d'un café fréquenté. Elle avait les jambes croisées, les mains jointes nerveusement sur le genou. Je l'observais depuis le trottoir d'en face, caché dans l'ombre d'un pas de porte. Je m'exhortais à y aller. Mais mes jambes refusaient encore de bouger. Plantée là, je regardais. Je sentais quelque chose de pesant et dur grandir dans ma poitrine. La première fois que j'avais appelé, elle m'avait raccroché au nez. La deuxième, elle m'avait accusé de lui jouer un tour cruel. Ensuite, elle avait fondu en larmes et ça m'avait bouleversé à tel point que je lui avais raccroché au nez. La troisième fois, je m'étais mieux contrôlée. J'en avais pas fait des tonnes. Je détenais des informations sur son fils disparu. Je voulais la rencontrer. Je pensais pouvoir l'aider. Je ne sais pas pourquoi j'ai présenté les choses comme ça. Pourquoi je n'ai pas tout simplement dit que j'étais son petit garçon. Que j'avais été enlevée dans mon lit alors que j'étais trop jeune pour me sauver moi-même. Qu'au cours des 10 dernières années, j'avais survécu à des atrocités indescriptibles. Mais que j'avais grandi. Que le Burgerman ne voulait plus de moi. Peut-être que je pouvais rentrer à la maison. Peut-être que je pouvais redevenir son petit garçon. J'aurais voulu lui dire ça. J'aurais voulu voir le sourire dont je me souvenais, celui de mon 6e anniversaire, quand elle m'avait conduit au garage où trônait un vélo Huffy tout neuf, surmonté d'un gros nœud rouge. J'aurais voulu la regarder rejeter ses longs cheveux bruns en arrière comme elle le faisait quand elle se penchait pour m'aider à faire mes devoirs. J'aurais voulu me blottir contre elle sur le canapé, la tête sur son épaule tandis que nous regardions K2000 à la télé. J'aurais voulu avoir de nouveau 9 ans. Mais ce n'était pas le cas. J'ai surpris mon reflet dans la vitrine du magasin. Mes yeux enfoncés, mes joues creuses, mes cheveux hirsutes. J'avais l'air d'un voyou, le genre de gamin que les agents de sécurité ne lâchent pas d'une semelle dans les centres commerciaux. Le genre avec qui les parents n'aiment pas que leur fils traîne. Je ne voyais pas l'empreinte des traits de ma mère sur les miens. Je voyais le Burgerman. Sur le trottoir d'en face, ma mère s'agitait sans cesse, tournait et retournait une bague à sa main droite. Elle jetait sans arrêt des coups d'œil par-dessus son épaule gauche, comme pour guetter mon arrivée. Et soudain, j'ai compris. Ce n'était pas moi qu'elle cherchait. Elle se concertait avec quelqu'un d'autre. J'ai suivi son regard et finalement repéré l'agent en uniforme, juste au coin du café. Il s'est retourné pour regarder ma mère d'un air désapprobateur, comme pour lui intimer de se calmer, et j'ai vu son visage. J'en ai eu le souffle coupé. Voilà ce que personne ne vous dira jamais. Les choses que seule l'expérience peut vous apprendre. On ne peut jamais rentrer chez soi. Un garçon élevé par les loups n'aura un jour plus que du loup en lui. Et l'amour d'une mère peut brûler. Je suis rentrée à l'appartement à 15h05. Je m'en souviens parce que quand j'ai franchi le seuil, la première chose que j'ai remarquée, c'est l'horloge sur le mur du fond. Elle indiquait 15h05. Et j'ai trouvé ça marrant. Une heure si normale. Une journée si normale, un après-midi si normal, pour une chose aussi anormale. Je n'ai pas enlevé mon blouson, pas retiré mes chaussures. Je n'ai pas traversé la rue pour rejoindre ma mère. Au lieu de ça, j'ai pris la direction d'une animalerie à quelques rues de là. Et maintenant, je tenais d'une main un sac en papier Kraft et de l'autre une batte de baseball Louisville toute neuve. J'ai laissé la porte de l'appartement grande ouverte et je suis allée droit dans la chambre du Burgerman. Il dormait sur le dos, une main sur son ventre empâté, l'autre rejetée sur la tête. Il était nu, les draps entortillés autour du bas-ventre. À l'autre bout du lit, le gamin était recroquevillé, nu lui aussi, sans couverture, frissonnant dans son sommeil. Je lui ai filé une grande claque sur l'épaule, ses yeux se sont ouverts d'un coup. « Tire-toi », lui ai-je ordonné sans ménagement. Il m'a regardé sans comprendre. Je me suis penchée pour me trouver presque nez à nez avec lui. « Sors ton sale cul de ce lit ou je te démolis la tronche. » Le gamin s'est précipité hors du lit pour sortir de la chambre à toute vitesse. A-t-il quitté l'appartement? Couru chercher les voisins? Ameuté la police? Je m'en foutais. De lui, de la police, des voisins. J'étais venue avec une mission à accomplir et non d'un chien j'allais le faire. J'ai ouvert le sac en papier craft, sorti la boîte. J'aurais voulu un pitbull ou même un python, mais avec 30 dollars, c'est ce que je pouvais faire de mieux. Je me suis souvenue de ce qu'avait dit le jeune homme à l'animalerie. Les araignées font d'excellents animaux de compagnie. Elles ont horreur de mordre, en fait. Il faut vraiment les emmerder pour qu'elles attaquent, en réalité. Alors j'ai ouvert la boîte et j'ai balancé l'énorme araignée noire en plein sur la poitrine du Burgerman. Puis j'ai pincé violemment une des pattes de cette femelle pour être sûre qu'elle serait bien énervée. Elle a aussitôt planté ses crochets dans le torse velu du Burgerman, qui s'est réveillé en sursaut avec un rugissement. Les instants suivants se sont déroulés comme dans un brouillard. Le Burgerman qui baissait les yeux, découvrait l'énorme mygale noire accrochée à sa poitrine, redoublait de cris, tirait sur son corps hérissé de poils et hurlait plus fort encore lorsque les minuscules soies qui recouvraient ses pattes lui piquèrent les doigts. Moi qui soulevais la batte de baseball. Le Burgerman qui levait les yeux et criait « Enlève-moi ça, putain de bordel de merde! Enlève-moi ça, enlève-moi ça, enlève-moi ça !» Moi qui balançais la batte de baseball, assénais un coup violent sur le nez du Burgerman. Il y eut un craquement, un jet de sang, un grand gémissement quand le Burgerman retomba avec un bruit sourd sur le matelas. Une main désormais sur son nez fracassé, l'autre cherchant toujours l'araignée à tâtons. « Arc !» a crié le Burgerman, un gargouillis visqueux au fond de la gorge. Il a arraché la mygale de son torse. J'ai eu l'image d'une araignée noire et velue en suspension dans les airs, un énorme lambeau de peau toujours pendu à ses crochets, tandis que du sang sourdait dans le trou qu'elle avait laissé. Le Burgerman a lâché l'araignée, s'est relevé avec un nouveau cri de rage. Alors je l'ai frappé. Au genou droit, un craquement. Un cri. Au genou gauche, nouveau craquement. Nouveau cri. « Mais petit, qu'est-ce qui te prend, petit? Tu sais pas que je vais te crever, petit? Hein, petit, tu sais pas ?» Je me suis dit, posément, avec un sang-froid que je ne me connaissais pas, que le Burgerman était un géniard de première. Couché sur le dos, les doigts agrippés au drap taché, il cherchait une prise. S'il parvenait seulement à se redresser, il s'en prendrait à moi. Je le lisais dans ses yeux. Même alors, à l'heure de rencontrer son créateur, le Burgerman ne songeait pas à se repentir. Il voulait juste tuer quelqu'un. Je me suis demandé si je ressemblais à ça. Et au lieu d'en avoir honte pour la première fois de ma vie, je me suis senti fort, puissant, aux commandes. J'ai levé la batte et je l'ai frappée, à nouveau, au visage cette fois-ci. J'ai touché sa mâchoire, entendu ses dents se fracasser, puis visé sa pommette. Debout au-dessus du matelas, j'ai martelé avec ma batte jusqu'à en avoir mal au bras. Et j'ai peu à peu pris conscience que le Burgerman ne faisait plus de bruit et que tout ce que j'entendais, c'était le claquement mouillé de ma batte contre son crâne défoncé. Que le liquide qui coulait sur mes joues n'était pas du tout des larmes, mais le sang et la cervelle du Burgerman qui dégoulinaient de la batte sur mes cheveux, sur mes vêtements. Je crois que j'ai éclaté de rire à ce moment-là. Difficile à dire. La seule chose que je savais, c'était qu'il fallait que je continue à taper avec cette batte, parce qu'à tout moment, les yeux du Burgerman allaient se rouvrir et qu'il se lèverait du lit pour s'en prendre à nouveau à moi. C'était comme ça que ça se passait dans les films. Quoi qu'on fasse, le monstre se relevait toujours d'entre les morts. Mais mes épaules ont fini par céder. La batte est retombée et malgré toute la force de ma volonté, je ne pouvais plus la lever. Je me suis effondrée sur la moquette, à bout de souffle, trempée de sueur, éclaboussée de sang, ma tête ensanglantée entre mes mains ensanglantées. J'ai attendu un moment, je ne sais pas quoi, que les voisins frappent à la porte, que les flics déboulent dans les escaliers, que le petit nouveau revienne et voit que je l'avais enfin fait. Le Burgerman était mort. Au bout d'un moment, comme rien ne se passait, je suis allée dans la salle de bain en traînant la batte. J'ai remarqué distraitement que le garçon avait refermé la porte d'entrée derrière lui. C'était peut-être pour ça que les voisins n'étaient jamais venus. Ou alors c'était parce que le Burgerman avait le chic pour choisir des appartements où les voisins n'en avaient rien à foutre. Dans la salle de bain, j'ai fait couler de l'eau et j'y suis allée tout habillée pour essayer de faire partir le plus gros, mais sans lâcher la batte. Juste au cas où, vous voyez, juste au cas où. Ensuite, dans ma chambre, j'ai fait un tas avec mes vêtements mouillés pleins de sang. J'ai enfilé mon deuxième jean, un vieux t-shirt, un sweat, les quelques habits qui me restaient. Juste au moment de partir, j'ai eu un éclair de génie. J'ai dégoté un sac dans le placard du Burgerman, je suis allée dans le couloir de l'entrée et j'ai fait le plein d'argent liquide et de cassettes porno. Vu que j'avais joué dans la plupart des films amateurs, il m'a semblé que c'était bien le moins que je méritais. J'ai essayé de réfléchir à ce que je pouvais prendre d'autre. Il y avait si peu de choses de valeur dans cet appartement. Le Burgerman dépensait tout son argent en alcool, drogue et prostituées. Il ne m'avait même jamais acheté un putain de jeu vidéo. La rage m'a repris d'un seul coup et pendant un instant de démence, j'ai eu envie de retourner dans la chambre pour recommencer à le tabasser à coups de batte. Il a fallu que je me reprenne, que je me concentre. L'autre garçon était parti depuis longtemps. Il était sans doute en train de tout balancer à la police. Il fallait que je me tire de là. À la dernière seconde, alors que je me dirigeais vers la porte, j'ai surpris un mouvement indistinct du coin de l'œil. J'ai vacillé sur mes jambes, cherché la batte de baseball à l'aveuglette, pivoté vers la chambre du Burgerman. Je venais de lever la batte au-dessus de ma tête quand j'ai compris que ce n'était pas le pied du Burgerman qui bougeait sous le drap. Au lieu de ça, les replis blancs se sont écartés et une araignée noire et velue est apparue. La mégale était vivante et se frayait prudemment un chemin sur les draps ensanglantés. Après une autre brève hésitation, j'ai trouvé la boîte qu'on m'avait donnée à l'animalerie. J'ai posé l'araignée à l'intérieur et je l'ai glissée dans mon sac. Je n'avais jamais eu d'animal de compagnie. Je me suis dit que j'allais l'appeler Henrietta. Chapitre 35. Il arrive que les araignées se mangent entre elles. Et cette tendance au cannibalisme rend toute vie sociale ou communautaire hautement improbable. Tiré de How to Know the Spiders, 3e édition, B.J. Kaysten, 1978. Elle eut envie d'appeler Mac. C'était sa réaction instinctive après cette scène de terreur et son épilogue. Sauf que bien sûr, il était en mission à l'heure qu'il était, faisant le travail qu'il aimait, aussi injoignable pour elle qu'elle l'était si souvent pour lui. Alors Kimberly se recroquevilla sur le sol de sa chambre d'hôtel, les bras repliés autour de son bébé dans un geste protecteur, consciente du sang sur ses joues et du fait qu'elle ne devait pas se débarbouiller avant que le photographe de scène de crime n'ait pris des clichés de son visage. Elle avait déjà prévenu son supérieur, qui allait à son tour passer un petit coup de fil au shérif du coin. Le shérif Wyatt quitterait sa formation à la prévention de la toxicomanie, le shérif Duffy serait tiré du lit, et avec leur bénédiction, sa propre brigade de relevés d'indices serait probablement activée pour traiter la scène. Tous ces rouages mis en branle. La machine policière qui s'enclenchait. Elle la connaissait. Elle la comprenait. C'était sa vie. Elle serra les paupières et se sentit hébétée, épuisée. « De l'eau ?» proposa Sal. Il s'assit à côté d'elle en prenant soin de ne rien toucher. Quincy et Rainey étaient à l'extérieur de la chambre, dans le couloir avec le patron éberlué, pour discuter à voix basse de quelque chose qu'il ne souhaitait manifestement pas qu'elle entende. « Ça va ?» demanda Sal. Elle hocha la tête. « Et le bébé ?» Elle acquiesça à nouveau, de son mieux. Son ventre allait très bien. Pas de contractions, pas de nausées. Elle se sentait surtout à cran à cause de la chute d'adrénaline et ses bras lui cuisaient à cause d'une multitude de micro-coupures. Rien qui nécessiterait davantage qu'un pansement. Elle allait très bien. Un vrai bonheur. Sauf qu'elle ne s'en remettrait jamais. Le corps du garçon gisait toujours à terre. Une tentative sommaire pour trouver un pouls avait confirmé le décès. Il n'avait pas pris la peine d'appeler les secours ni de réveiller un ambulancier. À ce stade de la partie, la priorité était de préserver la scène de crime. Y compris le sang dans les cheveux de Kimberly, sur sa joue. Cette puissante odeur cuivrée qu'elle ne pouvait pas s'enlever des narines. La voix du garçon qui essayait de lui expliquer qu'il était fatigué, tellement fatigué. C'était l'absurdité de la chose qui était le plus pénible. Le fait qu'on pouvait mettre un enfant au monde et que, sans que ce soit en rien de sa faute, il n'ait jamais la moindre chance. Kimberly pressa ses mains sur ses yeux, refusant de voir ce qu'elle voyait, de savoir ce qu'elle savait. Il a confirmé que Dinekara a assassiné les prostituées disparues, murmura-t-elle finalement en prenant le verre d'eau des mains de Sal, en le regardant trembler dans sa main. Elle n'avait pas envie de boire, mais se força tout de même à avaler quelques petites gorgées parce qu'elle ne pouvait pas risquer la déshydratation dans son état. Sal resta à son tour silencieux. Il a aussi descendu Tommy Mark Evans sur ordre de Dinekara. C'était considéré comme un échauffement pour son examen de passage. Il y a aussi un autre gamin, plus jeune. Il a dit que c'était son remplaçant. Où ça ? Quelque part, pas loin. D'après lui, Dinekara sait que nous enquêtons dans le coin. Peut-être même qu'on l'a croisé, je ne sais pas. Mais il est d'ici. Aucun doute là-dessus. Quoi d'autre ? Elle ferma les yeux avec lassitude, appuya le verre d'eau contre son front. Lorsqu'elle rouvrit les yeux et s'aperçut qu'elle avait barbouillé du sang sur le flanc du verre, cette vision, sinistre, grasse, lui souleva dangereusement le cœur. Elle lutta pour se contenir. Il l'aidait à se débarrasser des corps. Il les tirait sur des civières pour gravir Blood Mountain. Mais pas par le sentier principal. Dinekara en a un à lui. Quelque part au-dessus du chemin le plus fréquenté d'où il pouvait observer les activités en contrebas. Ça devrait nous aider à cibler les recherches. Très bien. Elle se tourna finalement vers Sal. Sa nervosité commençait à filtrer, anéantissait ses efforts pour se maîtriser. Très bien. Je viens de voir un adolescent se faire sauter la cervelle, et tout ce que tu trouves à dire, c'est très bien. Dinekara a kidnappé ce gosse. Il l'a violé, perverti, transformé en complice jusqu'au point où le gamin a préféré mourir plutôt que de prendre le risque d'un avenir avec son propre enfant. Il n'y a rien de très bien là-dedans. Sal la regarda bizarrement. Kimberly, ce n'est pas de ta faute. Qu'est-ce qui n'est pas de ma faute? Si un enfant a été kidnappé? Si personne n'est jamais venu à son secours? Si Dinekara s'est servi de lui pour ses meurtres plus d'une douzaine de fois sans que personne ne remarque rien? Nous sommes la police, Sal. Si ce n'est pas de notre faute, à qui la faute? Il a tué Tommy Mark Evans parce qu'il n'avait pas le choix. Il aurait aussi bien pu te tuer. Tu sais quoi? Ça ne me réconforte pas du tout. Et là, au milieu de son hystérie grandissante, elle se souvint brusquement. Merde, Ginny Jones. Elle l'attend sur le parking. Vite, avant qu'elle entende les sirènes, il faut la retrouver. Quincy et Rainey étaient des civils qui n'avaient pas d'armes. mais il n'était pas du genre à se laisser arrêter par ce genre de détails. Quincy prit la tête et Rainey le suivit d'un pas rapide et silencieux sur l'asphalte noir rendu glissant par la pluie. Le plus fort de l'orage semblait passer, ne laissant derrière lui qu'une pluie battante et un vent à décorner des bœufs. Difficile d'entendre, plus difficile encore de voir. Des conditions qui rappelaient à Quincy cette autre fois, pas si lointaine, où lui et son futur gendre, Mac, s'étaient faufilés dans le parc des expositions de Tillamook, dans une tentative désespérée pour entrevoir l'homme qui détenait Rainey et réclamer une rançon. Cette journée-là ne s'était pas déroulée comme prévu. Et cette fois-ci, le reflet des réverbères sur le pare-brise constellé de gouttes de chaque voiture déformait la vue, de sorte qu'ils avaient du mal à regarder à l'intérieur, tandis qu'un conducteur aurait moins de mal à voir au dehors. Quincy réalisa qu'il prenait la chose par le mauvais côté. Il n'avait pas besoin d'inspecter l'intérieur de chaque véhicule. Il leur suffisait d'examiner tous les pots d'échappement. Braquage de banque, leçon numéro 1. La voiture prévue pour la fuite doit toujours être en marche et prête à filer. Il fit signe à Rainey de prendre le côté droit du parking, le plus proche de la route. Lui se chargeait du gauche. Et plié en deux, remontait en courant le long de la file de véhicules. Et là, droit devant, juste à côté de la sortie vers la rue transversale, une petite voiture économique dont le moteur tournait. Il héla Rainey d'un geste de la main, elle s'approcha, et il s'avisa in extremis qu'ils avaient tout de même un problème. Ginny Jones était armée. Au moins d'une voiture, et peut-être même d'un pistolet. Alors qu'eux n'avaient que leur bonne tête. Quincy opta pour le plan B. Il ramassa un gros caillou, l'enferma dans son poing et enveloppa le tout dans son manteau. Quatre enjambées plus loin, il se présenta brusquement à la fenêtre conducteur. Ginny Jones ouvrit de grands yeux affolés. Il balança son poing mitouflé dans la fenêtre, fracassa la vitre et retira la clé de contact. La fille hurla. Il ouvrit la portière et lui décocha son plus beau sourire carnassier. « Mauvaise nouvelle, » dit-il. « Ma fille est toujours en vie et vous venez avec moi. » Ginny Jones poussa un nouveau cri. « Oh, pitié !» dit Rainey, en apparaissant soudain aux côtés de Quincy, comme si l'un de nous en avait quelque chose à foutre. Ils tirèrent Ginny de la voiture sous le ciel d'orage, juste au moment où les premiers véhicules de patrouille arrivaient en trombe. Rainey et Quincy gravirent les escaliers avec Ginny. Ils tournèrent à l'angle du couloir. Kimberly, assise par terre, les aperçut et se leva d'un bond. « Kimberly, non !» eut le temps de dire Quincy, avant que l'épaule de Kimberly ne donne dans la poitrine de Ginny et que les deux femmes entrelacées ne roulent à terre. Ginny hurlait quelque chose d'incohérent, tandis que Kimberly criait à plein poumon « Vous avez joué à la roulette russe avec mon bébé. Menteuse, salope, comment avez-vous osé mettre mon bébé en danger ?» Rainey essayait d'en attraper une, Quincy l'autre. Les deux femmes bougeaient trop vite. Ginny giflait Kimberly, Kimberly attrapait Ginny par les cheveux. « Où est le petit ? Je ne le dirai pas deux fois. Où Dinekara garde-t-il l'autre garçon ?» Pendant que Ginny geignait « Où il est ? Où il est ? Où il est ? Qu'est-ce que vous avez fait d'Aaron ? Vous n'aviez aucun droit de mettre ma vie en danger. J'essayais de vous aider. Il suffisait de me dire la vérité. Aaron, Aaron, Aaron !» Sal finit par se jeter dans la mêlée. Il attrapa Kimberly sous les aisselles et l'écarta de Ginny qui battait des bras et des jambes, juste à temps pour lui murmurer à l'oreille « Ça suffit, tu te donnes en spectacle.